Hello, moi c'est Doris, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est le podcast où je vais à la rencontre des personnes qui ont pris un virage à 180 ou qui ont un parcours de vie atypique et qui ont décidé d'entreprendre. Dans cet épisode, je vous partage l'échange que j'ai eu avec Natacha. J'ai rencontré Natacha parce que j'avais un problème, la peur de parler en public. Et ce qui m'a inspiré confiance chez elle, c'est qu'elle aussi, elle était passée par là. Natacha était cadre dans la fonction publique. Et bien qu'elle soit responsable du service concours, elle était tétanisée à l'idée de parler en public. Elle s'est formée à une nouvelle méthode pour régler son problème. Et depuis, sa vie a littéralement changé. Mais au-delà d'être libérée pour elle-même, elle a aussi décidé de quitter la fonction publique et de s'installer en tant que thérapeute pour aider les autres à eux aussi se libérer de leurs peurs et de leurs phobies. Son chemin est incroyable et je vous laisse le découvrir.
Je suis Natacha Doleux, je suis maman de deux enfants. Je suis installée du coup dans un cabinet libéral à Esnay depuis maintenant 2 ans. Je suis maître praticienne NERTI et aïnothérapeute. C'est deux noms un peu barbares qui ne disent pas beaucoup de choses à grand monde encore. Voilà, je suis ni coach, ni sophrologue, ni hypnothérapeute, ni énergéticienne. Voilà, je me décris un petit peu par défaut, mais voilà, je suis un petit peu dans tous ces domaines-là, puisque je m'adresse aux gens pour essayer d'enlever leur angoisse, leur phobie, les blocages émotionnels qu'ils pourraient avoir. Et en même temps, voilà, je ne rentre pas dans ces différents cadres de métier. Voilà, c'est des nouvelles méthodes qui ont été inventées dernièrement. Maître praticienne NERTI et aïnothérapeute, on va pouvoir en dire plus après.
Le titre du podcast, c'est Nouveau Départ. Toi, mm-hmm. Nouveau Départ, ça t'inspire quoi ?
Nouveau Départ, alors moi, ça me parle énormément. Parce que pour le coup, voilà, j'ai eu un gros virage, voilà, un gros revirement professionnel. Parce que j'étais pas du tout à l'origine prédestinée à être thérapeute. Puisque j'étais fonctionnaire, j'étais cadre dans la fonction publique, j'étais juriste de formation. Voilà, j'ai fait 5 ans de droit, j'ai passé les concours de fonction publique. J'ai fait 16 ans dans l'administration territoriale, dans un poste qui me convenait tout à fait. J'ai appris beaucoup de choses, rencontré plein de monde. Voilà, je me suis épanouie juridiquement, professionnellement dans ce poste-là.
Et donc, voilà. Si on remonte un peu dans ton parcours, ouais. Toute ta scolarité, ton orientation aussi au niveau de tes études, comment ça s'est passé ? Comment t'as fait tes choix pour te lancer dans la vie professionnelle ?
Tous mes choix, j'avoue que alors personne ne m'a. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas dit tu vas aller ici, tu vas aller là. Voilà, j'ai choisi. Mais inconsciemment, c'est vrai hein, que j'étais première de la classe souvent ou deuxième. J'ai jamais eu de soucis dans ma scolarité, mais le risque quand on fait ça, c'est une chance. Hein, ça facilite plein de choses. J'en ai bien conscience, mais le risque quand on est là-dedans, c'est que machinalement, on vous met les matières, le parcours qui va avec. Mmh. C'est-à-dire que quand vous êtes premier de la classe, vous avez de grandes chances que vous fassiez allemand-latin, donc c'est ce qui se fait, et que vous fassiez droit ou médecine, ou grandes écoles, autre. Donc bah, moi, c'est ce qui s'est passé. Ouais.
Tu sens qu'on t'a guidé un peu à ta place ?
Voilà, ouais. Personne en particulier, hein. Oui. Je vais surtout pas accuser mes parents parce que c'est pas du tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment moi qui ai choisi le droit, mais c'est vrai qu'inconsciemment, quand quelqu'un a des bonnes notes, on l'oriente vers des parcours longs, etc., sans se dire quel talent il a, est-ce que, voilà, jamais je me suis dit, tiens, je vais aller en fac de psychologie, alors que en fait, ça se trouve, j'aurais été bien là-bas, parce que voilà, on l'a vu là où je termine, j'adore ça, quoi.
Mais à ce moment-là, tu t'étais pas posé la question
Non, pas du tout. Et puis, il y a les préjugés. Bah non, à ce moment-là, la fac de psychologie, tout le monde disait, il n'y a pas de débouché. Voilà. Maintenant, avec le recul, c'est pas du tout le cas. Ouais, ouais. Et moi, quand j'étais à l'école, à la fac, c'est ce qui se disait. Ouais. Donc, machinalement, moi, machinalement, je suis pas allée là-dedans.
Donc, tu pars en droit.
Je pars en droit. J'avoue, pour être juge pour enfants... pour sauver la veuve et l'orphelin. J'avoue, peut-être comme beaucoup de jeunes femmes, voilà. Alors, quand je suis arrivée en fac de droit en première année, je me suis rendu compte qu'on était 900 dans la promotion. Ouais. Et le professeur vous dit, vous êtes 900 en première année de droit. Sur les 900 que vous êtes, il n'y en a qu'un seul qui va finir magistrat. Donc, ça calme un petit peu. Et effectivement, là, j'étais plus première de la promotion.
Ouais,
ouais. J'ai réussi toutes mes années de droit, mais c'est vrai que je n'étais pas dans les favorites. Voilà, et je me suis très vite rendu compte que juge pour enfants et magistrat, ce n'était pas pour moi.
D'accord.
Parce que le choix, ce n'est pas quelque chose de facile. Et
ouais.
Après, voilà, le rôle de magistrat ne se résume pas juste à choisir, etc. Mmh. Mais non, être juge pour enfants avec le recul...
C'était
heureusement que je n'ai pas fait ça. Donc, voilà.
Et du coup, dans ces années de droit, comment t'as évolué? Du coup, t'as écarté l'option de juge pour enfants. Est-ce qu'il y a d'autres métiers du droit qui t'ont attiré, qui t'ont donné envie?
Voilà, bah finalement, la fac de droit, c'était plus dans les matières et tout ça. Je me suis orientée vers le droit administratif qui me plaisait bien, qui me parlait bien finalement, que j'aurais... Je savais presque même pas qu'il existait, en fait, quand je suis rentrée à la fac de droit. Mais voilà, ça m'a bien plu. Et puis j'ai vu qu'il y avait l'opportunité des concours de la fonction publique où voilà, je m'y retrouvais bien.
Ouais. Qu'est-ce qui faisait que tu t'y retrouvais bien?
Le monde, ouais, je pense déjà une appétence pour le service public, voilà, le monde des collectivités et une petite préférence pour tout ce qui était monde hospitalier. J'avais une mention en droit hospitalier, j'aimais bien ce côté-là.
D'accord.
Et les EHPAD, voilà, il y a encore une fibre un peu sociale et humaine qui me raccrochait. Du coup, je me suis orientée vers les concours, le concours notamment d'attaché territorial de la filière sanitaire et sociale. Donc ça, c'est okay. Plus pour être directeur d'EHPAD, de maison de retraite et tout ça,
ouais.
C'est ce que je voulais faire.
Ok.
Mais comme je suis sortie de la fac de droit et avec mon concours d'attaché territorial, filière sanitaire et sociale, très timide,
ouais.
Évidemment que je n'ai pas été recrutée en tant que directrice de maison de retraite parce que c'est impossible de mettre quelqu'un d'ultra timide à ouais. un poste de direction comme celui-là, et je le comprends tout à fait.
Ouais.
Au cœur que, voilà, ma bête noire, c'était les entretiens de recrutement
ouais.
et la peur de parler en public.
Okay.
J'étais une très grande timide.
Ouais.
Et cette phobie-là, des grandes épreuves orales, etc., je ne l'ai pas eue tout de suite parce que j'ai passé toutes mes études et tout ça sans souci. C'est à partir de mes concours, je crois, de la fonction publique, voilà, vers 22-23 ans, comme quoi une phobie peut arriver plus tard. Et donc j'ai passé tous ces entretiens sans souci, mais là pour du coup passer un entretien pour changer de poste dans la fonction publique territoriale, en fait je perdais absolument tous mes moyens. Mais quand je dis tous mes moyens, c'est tous mes moyens.
Okay.
C'est-à-dire que je ne réussissais, je pouvais à un entretien même pas réussir à faire une phrase, voilà,
ouais.
Clairement. J'étais bloquée de la même façon que quelqu'un est phobique d'avion, ne mettrait pas un pied dans un avion. Mmh. J'étais bloquée de la même façon dans un entretien de recrutement.
Okay.
Donc pour recruter un cadre, c'est embêtant. Et voilà, j'étais déjà bloquée un petit peu comme ça pour tout ce qui était animation de réunion dans le cadre de mon travail, mais voilà, comme c'était mon travail, j'arrivais à bien les préparer, à cadrer le truc pour que ça se voit pas trop, ça me desserve pas trop, en termes de préparation, de forme, je mettais tout de mon côté pour que je puisse survivre professionnellement. Mais voilà, ça me bloquait énormément pour tout ce qui était grande réunion, improvisation. Ouais,
Tu te souviens la première fois où tu t'es retrouvée bloquée?
Le pire du pire, je crois que c'est... J'ai été admissible à pas mal de concours de la fonction publique, dont celui d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Et je me suis retrouvée face à un jury de 9 personnes. Et là, ça a été un cauchemar pour moi. Alors, pardon, messieurs, dames, parce qu'ils ont été charmants. C'est pas du tout d'où venait le problème. Mais alors, moi, c'était... Voilà, j'entendais même pas les questions, de toute façon, qui m'étaient posées. Je m'entendais pas parler.
Ouais.
Enfin, voilà. Comme quoi, c'est complètement physique et irrationnel, comme je rencontre aujourd'hui avec les gens qui soignent les phobies. Enfin, voilà,
ouais.
Le blocage total, alors ouais. que voilà, j'avais fait mes preuves à l'écrit et que j'avais pas de soucis et que j'avais mes chances comme ouais. tous les autres candidats. Mais
et comment tu l'as vécu, du fait que ça te tombe un peu ouais. dessus comme ça? C'était quelque chose que t'avais pas avant?
Ouais, C'est juste un cauchemar parce que ça vous bloque partout, quoi. Ouais. Ça vous bloque là pour réussir professionnellement, ça vous bloque plus tard, voilà, une réunion de parents d'élèves en tant que voilà, vous accompagnez vos enfants à une réunion de parents d'élèves de l'école, juste le tour de table, dire voilà, je m'appelle Natacha Doleux, j'ai ça. C'est fini, quoi. Vous avez déjà disparu.
Ouais.
C'est terrible, quoi. Puis on s'en veut parce que en fait. Moi, je me suis renseignée, évidemment, voilà, dans les livres, la psychologie, la sophrologie, les formations de prise de parole en public, en fait. Mais moi, je me reconnaissais dans rien, en fait, dans toutes les solutions qui étaient proposées, ne me suffisaient pas, ou voilà, ne me convenaient pas, ne me parlaient pas. Donc du coup, c'est très bien, parce qu'il y a plein de trucs et astuces données, mais ça a un double effet si ça ne fonctionne pas. Pour vous, du coup, c'est hyper culpabilisant parce que vous vous dites, j'ai vraiment un souci, moi, plus que les autres. Ouais, je suis vraiment très mauvais élève, quoi. Mais bon, voilà, j'ai réussi à avoir cet oral d'attaché territorial des affaires sanitaires et sociales. Oui. Voilà, je sais pas, j'ai envie de dire par miracle ce jour-là avec le jury, ça s'est très bien passé, le sujet m'allait très bien. Je ne sais pas, j'ai réussi à.
Malgré ce blocage.
Malgré ce blocage, voilà, à convaincre le jury ce jour-là. Et j'ai réussi aussi à entrer là où j'ai travaillé pendant 16 ans, dans un centre de gestion de la fonction publique. Et du coup, donc j'ai travaillé 16 ans là-bas.
Donc c'était quoi ton travail concrètement ?
Mon travail concrètement, j'étais responsable d'un service concours. Alors c'est drôle, c'est drôle, ça n'a rien de drôle, c'est un poste très sérieux dans lequel je me suis épanouie. C'est drôle dans le sens où en fait c'est le responsable du service concours qui va réserver les parcs des expositions par exemple pour convoquer 1500 candidats aux épreuves écrites de concours et qui va parler au micro devant 1500 candidats. Donc voilà, donc je trichais, clairement, j'avais mon petit papier et je récitais ma leçon, c'était terrible. Les premières fois que j'ai dû faire ça, j'ai passé des nuits à blanc, c'était vraiment comme si un phobique d'avion vous lui demandiez de prendre l'avion. Donc moi, c'est pas ma mission principale parce que c'est très ponctuel, donc on fait 3-4 épreuves écrites dans l'année et voilà. Mais c'est vrai que ça me coûtait en énergie à chaque fois, c'était assez terrible. Et puis ça se dit pas trop, après c'était peut-être une erreur de ma part, mais je prends souvent l'image du footballeur qui a la phobie de l'avion, par exemple. J'ai perdu son nom, il y en a certains qui vont le retrouver, mais voilà, il fait la une des journaux, ça fait rire tout le monde. C'est comme Clara Luciani qui a la phobie des pieds, ça fait marrer tout le monde en émission de télévision et tout ça, mais un cadre qui a peur de parler en public, ça fait marrer personne. Et le cadre, ça le fait pas marrer non plus, et généralement il le dit à personne, parce qu'en fait, c'est sur sa fiche de. L'évaluation, ça fait partie de ses missions, en fait. Donc, du coup, on va pas forcément vous prendre par la main quand c'est comme ça. On va vous dire, en fait, t'as rien à faire là, tu devrais même pas être cadre, en fait. Donc, t'es un peu livré à toi-même, tu te débrouilles. Donc, tu prends sur toi, mais comme plein d'autres choses et d'autres missions, il n'y a pas que celle-ci, mais...
C'était un peu la honte pour toi.
C'est la honte, quoi. Ouais. Puis on entend ce qui se dit entre collègues... Et puis ironie du sort, quand on est responsable du service concours, on est avec les jurys de concours à longueur de temps, donc on entend ce qui se dit sur les candidats qui se plantent à l'oral. On entend les jugements, c'est terrible, quoi. Il y a des candidats qui sortaient des choses à l'épreuve orale complètement absurdes et tout ça. Mais en fait, la terreur et la peur peuvent vous faire faire n'importe quoi. Donc vous êtes capable de sortir une réponse que vous savez très bien complètement fausse et mais c'est plus fort que vous. Vous êtes en mode survie, le corps vous met en mode survie et du coup vous sortez n'importe quelle bêtise. Tant mieux à celui qui n'est pas pris par ça et qui répond correctement et qui mais il faut savoir que ça existe et il suffit d'avoir eu une blessure, un trauma, une ambiance familiale ou autre, ça dépend complètement des gens, qui fait que ça vous stresse et ça vous bloque complètement. C'est pas une question de compétence de la personne, mais c'est bien souvent, malheureusement, ce qui est dit, c'est qu'on on va dire telle personne, elle est incompétente, elle est pas capable de me dire ça. Mais en fait, c'est qu'elle est bloquée. C'est, elle ne le fait pas exprès. Évidemment que personne, ça n'amuse personne d'être bloquée.
Toi, tu dirais que ça te bloquait au quotidien, vraiment dans ton travail, ou alors vraiment sur des moments très ponctuels, comme là, ces fameux concours?
Bah, tout ce que tu es réunion de jury, voilà, concours, des conférences, voilà. Je me rappelle une fois, on a fait une table ronde dans un amphithéâtre. Ça a été, je crois que le pire moment de ma vie professionnelle. Alors encore une fois, rien à voir avec les organisateurs, ni les collègues, ni quoi que ce soit. Mais moi, quand on m'a demandé d'animer une table ronde sur un dans un amphithéâtre, devant tous les collègues professionnels de la région, c'était horrible. Parce que autant préparer un discours bien conçu, en gros faire du par cœur, ben voilà, vous pouvez à peu près vous en sortir, même si c'est déjà terrible, comme si vous faisiez un saut en parachute, hein, ça vous coûte la même énergie. Mais alors répondre spontanément, avoir un échange comme ça devant tout le monde, je me suis liquéfiée sur place. J'ai la chance que ça se voit pas trop extérieurement, mais voilà, ça me coûtait une énergie folle, quoi.
Comment t'as essayé de résoudre ce problème?
Je crois que j'ai fait toutes les formations de prise de parole en public qui existaient dans le catalogue du CNFPT. C'était ton autre organisme de formation. Alors, il y en a certaines qui m'ont beaucoup aidée. Hein. Ça a déjà été un déclic et tout ça. Je pense à une formation avec un certain Stéphane, dont j'ai perdu le nom, mais voilà, qui m'a beaucoup aidée. Mais ça me... Voilà, je faisais encore partie des mauvais élèves où ça me suffisait jamais, moi, en fait. Même je pouvais aller le soir en sortant du travail à un cours de sophrologie. J'étais la pire élève. J'avais l'impression d'être à 20 cm du sol, encore dans mes dossiers de boulot, hyper stressée. Enfin, voilà, j'étais vraiment une grosse stressée, même si d'apparence, ça se voyait pas.
Ouais.
Et voilà, après, bah, justement, j'ai postulé à une offre. C'était dans le domaine de la santé. Et c'était un peu le déclencheur, parce que dans le jury, en plus, je connaissais quelqu'un avec qui je travaillais, avec qui dans la vie normale je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui. Et en fait, à l'entretien de recrutement, j'ai perdu la parole, il m'a vu, quoi, du coup, perdre complètement la parole. Et là, c'était le déclencheur, parce que je me suis dit, même si avec quelqu'un que je connais ben, je ne suis pas capable d'aligner deux mots, c'est qu'il y a, vraiment un souci. Là, voilà, donc on en a discuté. Et là, je me suis dit, voilà, faut que je cherche la solution à mon problème. Il y a vraiment, vraiment un souci. Donc du coup, j'ai cherché. Je suis tombée sur Internet sur ce monsieur, Luc Gégère, inventeur de la méthode NERTI. À ce moment-là, voilà, dans son discours et tout ça, j'ai tout de suite reconnu l'ancien timide et tout ça. Enfin, voilà, dès que je l'ai entendu parler, je me suis dit, lui, il sait ce que c'est, cette souffrance-là, d'avoir été coincé comme ça pendant des années. Voilà, donc j'ai tout de suite cru en lui, parce que je me suis dit, lui, il bluffe pas pour parler comme ça, c'est qu'il sait de quoi il parle et tout ça, voilà. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est resté plusieurs dizaines d'années... bloqué dans ses phobies sociales, etc., dans sa timidité, et qui propose une formation en ligne. Et voilà, je me suis dit, j'ai presque plus rien à perdre, voilà, j'essaye, quoi. Au pire, j'aurais perdu quelques centaines d'euros, mais j'essaye. Et en fait, ça m'a changé la vie, quoi. Ça m'a changé la vie, clairement. Pourtant, voilà, c'était par Internet. Il y a toujours cette petite méfiance des formations par Internet, comme ça peut être une arnaque. Mais c'est une formation, voilà, qui vous oblige à vous enlever, vous, vos propres peurs et phobies, pour pouvoir après prétendre éventuellement à pouvoir s'occuper des autres.
Ouais, ouais.
Donc d'abord, je l'ai fait pour moi, sans penser du tout en faire mon métier.
Ouais.
Mais quand j'ai vu à tel point, à quel point ça m'avait changé la vie et comment ça m'avait moi changé, je me suis dit, il faut que ça se sache, en fait, il faut que ça se partage, quoi. Après, j'ai passé un entretien de recrutement. Alors, je ne l'ai pas eu pour autant, mais je crois que je me rappellerai toute ma vie, quoi. C'était juste, pouvoir juste parler normalement, serrer une main, regarder quelqu'un dans les yeux, enfin, juste la forme, en fait, ça paraît tout bête, normalement, mais moi, c'est comme si. C'est comme si j'avais été en fauteuil roulant, puis que du coup je marchais. Enfin voilà, ça peut vous paraître complètement idiot, mais les gens qui viennent me voir et qui sont timides et qui entendent ça, ils se disent, oui, c'est exactement ça, c'est un réel handicap, en fait, de ne pas pouvoir d'être bloqué. Voilà, donc moi ça m'a fait cette impression, j'étais la plus heureuse du monde.
Donc au bout d'un an, tu résous ce problème, voilà. Et donc tu continues dans la fonction publique.
Voilà, j'aurais pu me dire, bah, à ce moment-là, je continue dans la fonction publique et je passe mes entretiens de recrutement et voilà. Et en fait, j'ai eu, un deuxième effet qui se coule. En fait, je me suis dit, bah, maintenant que je suis libre de parler finalement de ce que je veux et que j'avais enlevé cette peur, c'était comme si, bah, du coup, le choix était beaucoup plus grand que finalement, bah, vu que j'avais enlevé beaucoup de peur, mais en fait, je pouvais faire plein d'autres choses.
Ah ouais. Et une libération, ouais. En fait, dans ta vie, de manière générale.
Ouais. Bah oui, plein de choses, en fait. Vraiment, plein de choses. Un petit test, des fois, hein. Au départ. Hein. Comme un enfant avec qui il a une nouvelle liberté. Bah, tu vous testez sur plein de choses. Et, bah oui, ça aussi, je peux le faire, en fait, maintenant. Ouais. Voilà. Vu que ça me bloque plus. Ouais. Bah, je peux y aller.
Est-ce qu'il y avait des peurs, justement, qui ont fait que tu avais suivi ce chemin d'études et ce chemin professionnel?
Sûrement inconsciemment. Parce que voilà, je suis de nature introvertie, anxieuse quand même et tout. Donc je pense qu'inconsciemment, pour moi, la sécurité, c'était très important.
Ok.
J'avoue que j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, beaucoup de fonctionnaires. Après, voilà, très bien, ils font de très beaux métiers et voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de notions de risque. Et puis voilà, une famille pas forcément aisée. Voilà, enfin, mes parents ont souffert de ne pas pouvoir peut-être manger quand ils étaient enfants comme ils voulaient et tout. Donc forcément, c'est tout à leur honneur. Ils m'ont mis aussi cette pression de m'assurer une sécurité pour que moi, un jour, je me retrouve pas dans la même situation. Voilà, comme l'ancienne génération, j'aimerais dire, après-guerre. Je conçois. Continuer à travailler pour les collectivités.
Mais donc là, t'enlèves ces peurs et ça te libère, quoi.
Ouais, complètement. Et puis le deuxième effet, c'est que quand j'ai eu cette solution NERTI, là, en fait, ça fait comme si on m'avait mis un peu une pépite dans la main, en fait, et qu'on m'avait dit, là, maintenant, t'as le choix, quoi. Cette pépite-là, ce cadeau, soit tu le mets dans la poche et puis tu dis à tout le monde, voilà, moi, j'ai trouvé ma solution. Puis je la partage pas. Je vous dis pas ce que c'est, mon secret. Tant pis pour vous, cherchez à votre tour. Ou soit, en fait, tu le partages et puis tu dis, voilà, moi j'ai réussi à m'en sortir grâce à ça. Ouais. Et du coup, je vais en faire profiter tous les autres, quoi. Tous les candidats que je voyais se ramasser au concours, tous les collègues que je voyais souffrir de leur timidité, tout. Voilà, et du coup ça m'animait du coup deux fois plus, et puis je retrouvais la fibre sociale et humaine que je retrouvais plus sur mon poste. Et du coup je me suis dit tant pis, quitte peut-être à perdre un peu de confort de la fonction publique, je me suis dit je vais essayer.
Ouais.
Je vais essayer d'abord sur mon entourage, sur les gens que j'avais, pour voir si cette technique là elle aurait pu aussi ne marcher que sur moi.
Oui.
Mais en fait, quand je l'ai fait sur mon entourage, puis après sur les amis d'amis, etc., sur les connaissances, j'ai vu que ça avait les mêmes résultats. Au départ, je faisais mes petites statistiques et tout ça, voilà.
C'était sur quel type de phobie ou de peur, du coup
Alors, au départ, je faisais beaucoup d'araignées.
Ouais.
Araignées, avions. Les premières, c'était beaucoup ça, conduite, les pneus, des choses comme ça, des choses assez ciblées, choses... comme ça. Je me suis dit, je fais la formation pour être maître praticienne NERTI. Donc là, ça m'a pris en tout 3 ans.
Ok.
Alors, des fois, les formations internet sont décriées, mais moi, je crois que j'ai eu plus de mal à avoir ce diplôme de maître praticienne NERTI que ma maîtrise de droit. Je me suis dit, c'est parce que, c'est vraiment sérieux, quoi. Même si c'est par internet, il faut filmer ou s'enregistrer, et au mot près, le formateur, l'inventeur va vous retoquer, va vous dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il vous le donne pas facilement.
D'accord.
C'est pas si simple, hein. On est 40 ou 50 en France maintenant.
Ouais.
Et j'ai cru que c'était une arnaque. Je me suis dit, en fait, ils vendent une formation. Et en fait, on peut jamais avoir le diplôme, c'est pour ça. Mais non, j'ai bien fini par l'avoir, et voilà, mais c'est un gage de sérieux. Et il a raison, parce que c'est une technique qui peut à la fois paraître très simple et en même temps qui demande de la subtilité.
Ouais.
Et qui fait que si tu rentres pas dans les subtilités, tu passes à côté de la méthode et de la réussite.
Ouais.
Et puis je me suis dit, si ça continue comme ça, l'idée c'était de prendre un mi-temps ou une disponibilité, parce que dans la fonction publique, on a la possibilité Oui. Une nuit dispo, de garder son statut.
Ouais.
Et de, voilà, de revenir éventuellement si ça ne fonctionne pas ou autre.
Ouais. Ouais.
Je sais que j'ai fait une erreur, j'ai créé mon entreprise administrativement, mais comme j'étais dans la fonction publique, ça devait être un défaut professionnel. Ouais. J'ai fait toute la création d'entreprise, les papiers et tout ça, bien avant d'être prête et d'avoir mon diplôme.
Ok.
En pensant que c'était une bonne chose, en me disant, voilà, comme ça, je serais prête tout de suite et je pourrais faire feu.
Okay.
En fait, c'est une erreur, parce que quand vous créez votre entreprise, trop tôt, administrativement, toutes les aides qui peuvent vous être accordées, elles commencent à tourner. Ouais. Du coup, vous perdez du temps. Et comme j'avais pas... Voilà, j'ai fait l'erreur aussi d'avancer peut-être un peu toute seule. Je le dis aussi pour les créateurs et créatrices qui se lancent. Voilà, n'hésitez pas à demander et à vous mettre dans les réseaux et les formations qui peuvent vous aider, parce que on fait des petites erreurs comme ça qui peuvent des fois coûter cher derrière, faire perdre un peu de temps et d'argent.
Ouais.
Bref, je l'ai créé 6 mois trop tôt administrativement.
Ok.
Et après, voilà, il y a eu des événements professionnels, des circonstances qui ont fait que, en fait, j'ai dû renoncer à tout ce qui était mi-temps, disponibilité. Et j'avais finalement le choix soit entre rester dans mon activité ou dans la fonction publique et rester sur un grade d'attaché principal et donc avec des missions assez importantes et donc renoncer à mon entreprise. Soit je faisais le grand saut, c'est-à-dire la rupture conventionnelle carrément, et pour remettre en avant mon entreprise et tout ça. Donc il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de choses, ça a été vraiment le gros choix.
Donc là on était en 2020,
voilà.
Il fallait que tu fasses un choix, quoi.
C'est ça. Donc la chance que j'ai eue, c'est que la rupture conventionnelle s'est ouverte dans la fonction publique le 1er janvier 2020, et moi j'étais pile dedans. Bon, la malchance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu le Covid, mais voilà, après mûre réflexion et nuit blanche, j'ai décidé de faire le grand saut, parce que je pouvais plus garder cette pépite dans ma poche, sans rien dire en fait.
Ouais.
Et en fait, quand vous avez ce genre de formation et que vous expliquez aux gens, mais si tu veux, je peux t'enlever ta phobie, je peux t'aider, mais en fait, comme vous êtes dans l'administration, que vous n'êtes pas thérapeute, en fait, les gens vous croient pas vraiment, quoi, tant que vous n'avez pas un statut professionnel qui va avec. Donc, donc en fait, voilà, j'ai très vite compris qu'il fallait que je m'installe comme ça pour avoir une crédibilité et que ça marche, quoi, effectivement. Donc, du coup, je me suis lancée, rupture conventionnelle.
Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre ta décision?
Alors là, c'était les événements, je crois, les coïncidences ou les synchronicités. Les gens écouteront ce qu'ils veulent, mais il y a plein de choses qui se sont mises en place, des signes ou des choses qui se sont mises en place, et je me suis dit, faut y aller, quoi. J'avais l'impression que d'un côté toutes les portes s'ouvraient, puis de l'autre côté toutes les portes se fermaient, et du coup c'est le fameux carrefour de vie dont on parle peut-être dans les livres ou les films des fois. J'avais l'impression d'être là. J'ai fait le grand saut, j'ai aussi il y a des ouvrages qui m'ont inspiré, des gens que j'ai entendu parler, des entrepreneurs qui disaient que souvent on regrettait de ne pas avoir fait, mais qu'on regrettait jamais d'avoir fait, quoi. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je risque finalement? Qu'est-ce que je risque? Il y a toujours des solutions, finalement. On a toujours peur du pire, mais il y a toujours des solutions. C'est vrai que quand on est dans son poste, en plus quand on est dans un poste confortable, on a l'impression d'être. Qu'il n'y a que ça et qu'on va tout perdre, quoi. Qu'on va perdre nos droits à la formation, nos collègues, nos équipes, notre salaire, plein de choses, quoi. Alors qu'en fait, quand on sort de ça, on se rend compte qu'il y a des portes qui s'ouvrent partout, quoi. On peut trouver des formations partout, on peut trouver d'autres réseaux, des réseaux d'entrepreneurs.
Et alors toi qui venais pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, comment ton entourage a réagi par rapport à ce changement?
Ça n'a pas été facile, alors je les critique pas. Ils m'ont toujours soutenue, personne ne m'a dit surtout, n'y va pas, Mais je sentais quand même leur crainte et tout ça. Mais c'est normal. Et je pense que si moi, demain, ma fille ou mon fils se lance dans quelque chose à risque, je vais avoir le même réflexe maternel de vouloir les protéger. Et je pense qu'on est un peu tous comme ça en parents. Et c'est là que, des fois, c'est plus dur. J'avais lu une phrase une fois, une citation, où en fait, il disait que le plus difficile... à combattre. C'était pas forcément vos ennemis, c'était vos amis. Et effectivement, c'est pas dans le sens je les combats parce qu'ils m'empêchent d'eux. C'est encore plus difficile de dire à vos amis et à votre entourage de se dévoiler, déjà de dire bah finalement en fait moi la vraie moi elle est comme ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça c'est pas facile parce que vous changez de masque, vous changez de visage. Et puis en plus bah oui voilà, forcément plus c'est votre cercle proche et plus il a envie de vous protéger. Et voilà, plus vous allez prendre de risques et plus ils vont vous faire la grimace, quoi, par quelques personnes, quelques amis, quelques coachs un peu plus intrépides que les autres.
T'as eu cette sensation d'enlever un masque, justement?
Ah oui, moi, complètement, ouais. Et puis, bah voilà, la libération émotionnelle, ça m'a fait ça. Et en plus, moi, du coup, d'aller vers ce que j'avais envie de faire, et voilà, complet. Moi, j'ai eu l'impression de vivre avec un masque pendant 30 ans, 40 ans, et de l'enlever aujourd'hui.
Ouais.
Clairement, oui. Et je l'ai encore pas tout à fait enlevé dans certaines circonstances, oui, je pense, ouais. Mais bon, on est un peu tous comme ça, mais quel bien ça fait de l'enlever.
Ça a eu des conséquences sur ta vie aussi personnelle, au-delà juste de ce changement professionnel?
Oui, ça change beaucoup de choses, parce que ça peut bousculer les gens qui restent dans leur peur aussi, quoi. Qui comprennent pas, qui sont viscéralement attachés à leur poste et à leur confort, et voilà, sans jugement, hein, parce que j'étais comme ça avant, donc je les comprends tellement que voilà. Et puis il y a des, je vais pas vous dire que tout était rose et que tout a été facile, donc ça veut dire qu'il y a des gros moments de doute aussi, où la peur mentale, pas reptilienne mais mentale, vous rattrape, hein, parce que j'enlève pas toutes les peurs. Ça faut bien le dire et le répéter aussi. Mais du coup, voilà, et dans ces moments de doute-là, vous pouvez être un certain poids parce que voilà, c'est pas facile d'avoir un ami qui doute à côté de vous. Voilà. Enfin, y a des gens qui vont vous supporter dans toutes les circonstances, que vous alliez bien ou non. Et puis il y en a d'autres. Quand vous allez pas bien ou quand vous demandez beaucoup, ils sont un peu moins là.
Ouais, ouais.
Ça, c'est pas simple, ça, j'avais pas prévu ça dans mon programme. Et j'avoue que ça, c'était pas toujours confortable. Mais à côté de ça, il y a l'inverse aussi. On se crée des nouveaux amis et puis on voit aussi les amis qui sont toujours là quand on a besoin. Les vrais amis, ils sont là, ils restent. Et c'est chouette, quoi. Et c'est l'amitié encore plus profonde, plus forte, tout à fait.
Et donc cette année 2020, tu quittes la fonction publique, tu te lances vraiment dans ton activité. Ouais. En même temps, c'est l'année Covid. Ouais. Comment tu la vis cette année-là? Comment elle se passe pour toi?
En plein confinement. C'était de la folie. Je ne pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps, hein. C'est ce que j'ai dit. À beaucoup, si j'avais su les deux années, si j'avais su que les deux années seraient passées comme ça, je me serais jamais lancée. Mais tant mieux, je le sais que maintenant et avec le recul, je regretterai rien. Mais les six premiers mois, les premiers mois de confinement, c'était dur parce que moi, j'ai ouvert mon cabinet 8 jours avant le confinement. Et du coup, j'ai perdu financièrement, j'ai perdu beaucoup, parce que j'ai perdu 6 mois de loyer, j'ai perdu toute ma com qui venait d'être lancée. Je pense qu'elle a été jetée à la poubelle pour raison sanitaire. Tous les salons bien-être n'ont pas eu lieu. Donc pour la communication et tout ça, c'était compliqué.
Ouais.
La bonne nouvelle, c'est qu'on avait l'autorisation de faire NERTI en visioconférence, alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc ça, c'était bien, parce que du coup, je peux bosser avec toute la France, c'est bien. Mais voilà, c'était dur pour la création d'entreprise. J'ai perdu 6 mois de bilan. Voilà, la rentrée, le confinement s'est arrêté en mai, mais c'est vrai que c'est pas en été qu'on lance vraiment une activité de thérapeute. En septembre, j'ai repris. Je me suis vraiment lancée en com, etc. Mais deuxième vague.
Deuxième confinement.
Voilà. Donc j'ai le droit d'exercer, mais... Mais voilà, ça vivotait, je pense, comme pas mal d'activités. Même chose pour la troisième et la quatrième vague, que j'ai eu de plein fouet. Mais ça a continué toujours à progresser, lentement mais sûrement. Donc,
t'as quand même toujours eu des clients.
J'ai vu que le bouche à oreille continuait. Puis j'ai continué à apprendre, à progresser. Voilà, parce que j'ai appris plein de choses pendant ces deux années qui ont été très très riches malgré le confinement et tout ça. J'ai rencontré plein d'autres personnes. Je regrette rien.
qu'est-ce qui a changé, enfin, du coup, même dans ta perception du monde, peut-être
Oh, plein de choses. C'est difficile à résumer. Des fois, j'aimerais bien, quand je découvre des choses et tout, je dis, il faudrait que j'explique et tout ça. Mais c'est hyper dur à résumer à tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on découvre et tout ça. Ouais, c'est... En fait, quand vous avez peur de quelque chose, bizarrement, c'est là que ce que vous craignez va se passer. C'est vraiment, moi, ma grosse leçon de tout ça. Alors qu'en fait, quand vous décidez d'aller au-delà de votre peur, je ne suis pas la première à le dire, hein, mais dès lors que vous décidez d'aller au-delà de votre peur, hein, finalement, c'est là que les portes s'ouvrent. Mais il faut avoir le courage de dire, bah, tant pis, j'y vais quand même.
Et voilà. Il faut dépasser la peur d'avoir peur, en fait.
Ouais. Mais oui, il y a une donnée aussi un peu spirituelle de la vie où les portes, elles s'ouvrent parce que vous avez le courage de franchir cette peur. Et du coup, c'est un peu magique. Le côté un peu magique que je ne connaissais pas avant et que je voulais pas forcément y croire et tout ça. Mais je peux que témoigner que depuis le début, les dates se sont à chaque fois bien mises. Après, je peux avoir deux lectures de ce qui s'est passé. Je pourrais me la monter, me dire, je pourrais avoir une lecture en me disant, j'ai perdu mon poste, il y a eu le confinement, je galère, je sais pas, toutes ces lectures-là. Et en même temps, de l'autre côté, ça dépend vraiment du regard qu'on a sur ce qui se passe. J'ai eu de la chance en fait, j'ai eu énormément de chance puisque la rupture conventionnelle s'est ouverte pile quand j'en ai eu besoin. Les événements se sont passés de telle façon que finalement ça a fini de me donner le coup de pied dont j'avais besoin pour partir. Mon handicap de timidité aujourd'hui c'est ma force. Avant, je râlais tellement après ce truc là en me disant mais pourquoi on m'a collé ça. Et en fait, maintenant, la chance que j'ai, parce que quand les gens viennent me voir, ils voient que, ils savent de quoi je parle. Je suis une espèce d'experte en peur tellement.
ouais, c'est clair.
Et c'est là où la vie, elle est magique. C'est qu'en fait, les trucs près desquels vous râlez en vous disant, c'est quand même... on m'a mis ce boulet au pied là, qu'est-ce que j'en fais ? Finalement, ce boulet, il a une raison. Il a toujours une raison pour moi maintenant. C'est ce que je me dis, même si c'est pas toujours facile à vivre, à entendre, ce boulet-là, il a une raison, et c'est pour que soit vous preniez conscience d'un truc, ou soit que vous enleviez une peur pour aller vers l'amour, la tolérance, ou des choses comme ça, mais c'est vraiment ça. Et depuis le début, toutes les épreuves que j'ai subies, non sans mal, mes amis peuvent témoigner, mon entourage aussi, mais c'est vraiment ça, à la fin, il en sort quelque chose de positif, quoi. Mais oui, il faut oser la mobilité dans le sens où... si j'étais restée là-bas, si j'étais restée à mon poste parce que je ratais mes entretiens, parce que au bout d'un moment, je me serais ennuyée. Il y a des gens pour qui ça convient très bien et pourquoi pas, je respecte. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre, de découvrir, il faut que ce soit nouveau en fait. Et si j'étais restée là-bas, je me serais ennuyée, je serais devenue aigrie, j'aurais rejeté la faute sur les autres, j'aurais râlé après le système, Alors qu'en fait. Maintenant, c'est fini. Moi, je rêve d'une société où en fait les gens sont mobiles. Mais bon, ça m'appartient qu'à moi. Mais moi, je me dis depuis le début que si les gens changeaient régulièrement et de poste et de domaine en fait dans le public, le privé, l'entrepreneuriat, le salariat, et ça, en fait, chacun comprendrait les problématiques des uns des autres. Personne se lasserait autant que les gens sont lassés actuellement. Mais pour ça, il faut enlever la peur.
Un peu la peur, mais oui.
Souvent, c'est ça. Ça peut être un choix. Hein. Je dis pas, il y a des gens qui vont être, qui vont tout de suite tomber dans leur passion, leur talent, et qui vont être pâtissiers toute leur vie ou n'importe quoi. Et très bien, et parce qu'ils sont tout de suite pile dans ce qu'il faut, et du coup, comme ils adorent ce qu'ils font, ils goûtent aussi à quand on aime, on ne compte pas, et du coup, ils peuvent travailler, être passionnés pendant toute leur vie, et c'est parfait. Si c'est du premier coup, très bien. Ça me fait penser à un formateur une fois qui m'avait dit on a ça se découpe en quatre choses. On a tous des zones d'incompétence, des choses qu'on ne sait pas faire, des zones de compétence, des choses qu'on sait faire. Voilà, je dis n'importe quoi, par exemple, je sais pas faire un cheesecake, par exemple, j'y arrive jamais. Je sais pas faire un cheesecake, c'est ma zone d'incompétence. Je sais nager, je peux mettre ça dans ma zone de compétence. Zone d'excellence, à la limite, c'était ce que je savais faire avant. Ça faisait 10 ans que j'étais irresponsable concours, donc le droit des concours, je le connaissais sur le bout des doigts. C'était ma zone d'excellence. Mais c'était pas encore ma. Le quatrième, c'est la zone de génie. Ouais. Je dis pas que je suis un génie, c'est pas du tout ce que je dis. Mais quand vous touchez cette zone-là, vous touchez votre côté talent, passionné, où en fait vous êtes pile là où vous devez être. Et toutes les barrières, elles tombent en fait. Mmh. Peu importe les difficultés du statut d'auto-entrepreneur, les difficultés des solitudes financières et autres en fait. Et puis d'aller travailler le samedi, de travailler jusqu'à 20h le soir. En fait, il n'y a plus rien qui vous arrête. Mmh. Quoi. Mmh. Sauf votre famille et les temps et les heures de la journée.
Oui, c'est ça, le temps qui défile.
Ouais, faut faire attention à ça après, mais à part ça, ouais, c'est génial de pouvoir toucher à ça.
Ouais. Tu dirais que c'est quoi ton talent aujourd'hui?
Je sais pas, ça c'est difficile à dire. J'ai toujours un petit syndrome de l'imposteur qui me rattrape quand même en me disant voilà. C'est mon ancien handicap. En fait, mon talent, c'est de savoir ce que peut ressentir quelqu'un quand il a peur. Et du coup, je vais pas le juger, et je vais pas lui dire faut faire ci, t'as qu'à faire ça. Je sais que c'est malgré lui, et du coup, je vais le chercher ailleurs, dans le corps. Enfin, grâce à NERTI et à l'hypnothérapie, je sais que c'est malgré lui, donc c'est pas la peine de lui tenir un grand discours. Et que le discours, le coaching, les formations de prise de parole en public, le théâtre, la sophro, ça peut effectivement ça sert, mais une fois que, enfin pour certaines personnes, il faut d'abord enlever un gros blocage pour que tout le reste puisse être entendu en fait, c'est ça que je dis, parce que voilà, toutes les autres techniques m'ont également servi, mais il restait ce gros nœud et
blocage de fond quoi.
Et dans tout ça, j'oublie de parler de la hypnothérapie.
Oui.
Voilà, parce que NERTI, j'en suis tout à fait satisfaite et tout ça, ça m'a énormément aidée à enlever mes phobies, mes grosses angoisses, mais en fait, il restait encore, je sentais un manque de légitimité, pas mal de culpabilité, plein de choses, une espèce de truc un peu plus latent, quoi. Il n'y avait pas de gros symptômes comme avant, où on n'arrive plus à parler, où on ne peut pas prendre l'avion, mais il y avait une espèce de truc, une lame de fond qui était un peu toujours là. Mmh. Et j'ai rencontré Bernard Sensfelder et l'hypnothérapie. Et voilà, ça a été une autre superbe découverte. Et du coup, j'ai intégré ça aussi dans mes services. Et ça fait aussi que l'activité a continué de progresser. Et puis ça m'a permis d'avoir des bons retours. Et ça permet d'aider encore plus les personnes en profondeur. Et puis aussi, ça peut être des gens qui n'ont jamais été confrontés à la peur. Je pense à des fois des pompiers, il y a des pompiers avec qui je travaille, c'est des gens qui a priori ont plus de charisme que moi, qui vont sur les accidents et autres, et qui voilà. Et en fait, il y a des gens qui sont venus me voir parce que ils sont confrontés à la peur, parce qu'ils doivent passer un examen, et comme ils sont tellement à fond dans je peux pas louper cet examen, et du coup là ils sont face à leur peur de ah mais mon Dieu, si jamais je le loupe cet examen quoi. Et là ils se retrouvent dans un truc qu'ils connaissent pas habituellement. Ou des gens qui d'habitude, des postes de directeur, de syndicaliste et autres, des gens avec plutôt un charisme assez important, et en fait, du jour au lendemain, suite à un trauma, un accident, pof, ils se retrouvent avec un manque de légitimité, une peur, ils savent pas d'où ça vient. Et du coup, moi, ancienne grosse trouillarde, je leur dis, je sais ce que c'est, je vous montre comment on fait avec la peur, en fait. En fait, c'est ça, mon talent. Alors, c'est un métier qui n'existe pas. Mais voilà, moi, je vais là-dedans. J'espère que je fais de mon mieux, en tout cas.
Ouais, trop bien. C'est quoi la suite pour toi et ton entreprise ?
Je continue dans ce que je fais. Là. Si ça continue comme ça, moi, je m'éclate. Je me lasse pas de recevoir des gens, de libérer des gens à chaque fois. C'est un bonheur.
Ouais.
Donc voilà, pour l'instant, je finalise tout ça. J'ai encore plein de choses à finaliser dans mon entreprise, parce que c'est sans fin en termes de code, de plein de choses. Il y a plein de choses à mettre en place dans une entreprise, mais j'ai plein de projets encore. J'aimerais bien travailler avec pourquoi pas certaines célébrités, pourquoi pas. Des fois, je me dis, j'aimerais bien enlever des phobies. C'est frustrant quand je vois des gens des fois avec des phobies à la télé. Je me dis, mais pourquoi ils restent avec
la phobie des pieds de Clara Luciani.
Mais voilà, là, j'ai pris contact. Hein, si quelqu'un la connaît, je prends. Encore faut-il le vouloir, parce que certains phobiques n'ont pas envie de l'enlever, donc je respecte. Et oui, les prisons aussi, ça peut paraître curieux, mais je reçois beaucoup de victimes et qui ont peur malgré elles, parce qu'elles ont subi quelque chose et tout ça. Mais voilà, mais de la même façon que je dis, les gens ils sont pris dans leur peur, ils la subissent leur peur, mais en fait, sans excuser, les bourreaux, parce que. Quand on fait quelque chose de grave, faut être puni. Et voilà, c'est pas l'idée de les excuser. Mais de la même façon, en fait, s'ils sont pris dans leur colère ou non, voilà, c'est ils subissent leur colère et leur attaque, leur envie d'attaquer malgré eux. En fait, c'est pas un choix de leur part. Ça s'explique, à mon avis, niveau neurosciences, de la même façon qu'on explique une phobie ou. Et en fait, il y aurait plein de choses à faire, quoi. Réparer les victimes et tout ça. Moi, quand je peux aider quelqu'un, je suis la plus heureuse du monde.
Ouais.
Mais si je peux éviter qu'il y ait des victimes, ce serait encore mieux. Ouais. Après, c'est mon côté rêveuse.
Est-ce qu'on en revient un peu à ta vocation initiale de magistrate?
Ouais, c'est marrant. J'avais pas pensé, mais oui, moi, je rêve de ça. Encore une fois, j'excuse pas. J'excuse pas les gens qui commettent des choses graves, mais parmi les gens qui commettent des choses graves, il y a des vrais gens mal intentionnés, mais il y a sûrement aussi des gens qui subissent, qui reproduisent des choses malgré eux. Ben, voilà, on le voit bien nous-mêmes. Je prends un exemple moi-même. J'aimerais des fois ne pas me mettre en colère contre mes enfants, mais machinalement, c'est notre cerveau reptilien qui a enregistré ça, et malgré nous, on ressort un geste, une colère, un truc qu'on a enregistré, mais des fois, on a bien conscience qu'on ne devrait pas faire ça, mais c'est plus fort que nous. Voilà.
Pour terminer, est-ce que tu aurais une devise à partager qui représenterait pour toi ta vision de la vie ?
La vision de la vie ? Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et c'est pas de moi, hein, je l'ai lu, et voilà, ou je l'ai même transformé, parce que voilà, il faudra que mes amis me le rappellent quand je. Je ne vais pas bien, je prétends pas avoir ça en tête tout le temps, mais voilà, l'idée c'est que même quand la vie elle vous présente des trucs compliqués, c'est souvent un cadeau mal emballé. C'est pas facile à entendre des fois, parce que quand c'est des choses très dures, on se dit comment est-ce que je peux trouver du bon dans ce truc là, et en même temps quand on a passé le tunnel et quand on a fini de le vivre, on se dit finalement, ça m'a appris ça, ça m'a fait prendre conscience de ça, je relativise sur ça, et en fait, on apprend toujours, il en ressort toujours quelque chose de bon, même si sur le coup, j'entends, et je suis la première à le dire et à pleurer parfois, c'est pas facile. Voilà, donc c'est souvent un cadeau mal emballé.
Merci beaucoup, on va terminer sur ça.
Merci à toi, Doris.
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Natacha. Si vous souhaitez la suivre ou prendre rendez-vous avec elle, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Et si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le dire et à le partager sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, en me taguant @projet-du-bas-emoi, E-M-O-I. Et si vous aussi, vous voulez prendre votre nouveau départ, rendez-vous sur la page de mon site projetemoi.fr/nouveau-départ. Allez, je vous dis à très vite !